Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment assurer votre sécurité si vous êtes victime de violence? Un texte de la rédaction paru sur le site web Femmes et égalité des genres Canada. Assurer votre sécurité si vous êtes victime de violence. Il est important que vous soyez prêt à assurer votre sécurité et celle de votre enfant. Demandez à un ami, un voisin ou un collègue en qui vous avez confiance ou communiquez avec les services locaux. Il existe également des outils en ligne pour vous aider et des façons de naviguer pour assurer votre sécurité. Tu es un enfant ou un adolescent qui a besoin d'aide? Communique avec Jeunesse J'écoute au 1-800-668-6868. L'appel est gratuit et tu n'as pas à te nommer. Mais si vous n'avez pas l'intention de quitter votre partenaire, un plan de sécurité peut être utile si la situation s'aggrave. Vous pourriez devoir quitter votre domicile en vitesse. Assurez-vous de prendre des mesures qui vous conviennent, par exemple, une à la fois ou par étape, et qui sont sécuritaires pour votre enfant et vous-même. 5 étapes pour établir votre plan. 1. Faites une recherche. Parlez à votre famille, à vos amis ou à un professionnel en qui vous avez confiance qui peut vous aider à établir un plan. Obtenez des conseils juridiques au sujet de vos droits. Trouvez des services dans votre région comme des refuges et de l'aide financière. 2. Vivez en sécurité et planifiez un départ hâtif. Si vous restez, truc pour vivre en sécurité. Parlez de votre situation à quelqu'un en qui vous avez confiance. Réfléchissez au moment où votre partenaire a fait usage de la force. Cela vous aidera à prédire des types de dangers auxquels votre enfant ou vous-même pourriez faire face et à déterminer à quel moment vous devriez partir. Établissez un plan pour quitter votre domicile de façon sécuritaire et pratiquez-le avec votre enfant. Choisissez un endroit à proximité où vous appellerez à l'aide, un café ou la maison d'un voisin. Décidez où vous irez. Par exemple, la maison d'un ami ou un refuge local, une maison d'hébergement ou une maison de transition. Et déterminez comment vous vous y rendrez. Demandez à vos voisins, vos amis et votre famille d'appeler la police s'ils entendent des bruits associés à la violence et de prendre soin de vos enfants en cas d'urgence. Stationnez votre véhicule à reculons dans votre allée et assurez-vous qu'il y a toujours de l'essence. Cachez vos clés, votre cellulaire et de l'argent près de votre chemin de fuite. Dressez une liste de numéros de téléphone à composer pour obtenir de l'aide. Demandez à votre refuge local ou à la police si vous pouvez obtenir une alarme ou un téléphone en cas d'urgence. Assurez-vous que toutes les armes et les munitions sont cachées ou ont été retirées de la maison. En cas d'urgence, si une querelle survient, déplacez-vous dans un endroit que vous pourrez quitter facilement. Trouvez des portes ou des fenêtres par lesquelles vous pourrez fuir rapidement. Dressez la liste des pièces dans lesquelles vous pourriez être prisonnière ou dans lesquelles se trouvent des armes, comme des couteaux, qui pourraient être utilisés contre vous. Tâchez d'éviter de vous trouver dans ces pièces lors d'un épisode de violence. Si vous êtes blessé, rendez-vous dans un cabinet de médecin ou à l'urgence et faites part de ce qui vous arrive. Demandez à ce que votre visite soit consignée dans un dossier. Si vous êtes blessé, protégez votre visage avec vos bras en les plaçant le long de votre tête et en croisant les doigts. Ne portez pas d'écharpe ou de longs bijoux. si vous avez l'intention de partir en situation non urgente. Communiquez avec un refuge local pour femmes, même si les refuges ne sont pas en mesure d'accueillir les hommes victimes de violences, ils offriront de l'information aux victimes. Indiquez que vous avez l'intention de quitter une relation violente et demandez au personnel d'appuyer votre plan. Songez à communiquer avec la police. Demandez à parler avec un agent qui se spécialise dans les cas de violence conjugale. Réunissez tous vos documents importants. Consultez un avocat. Conservez toutes les preuves de violence physique, comme des photos. Consignez dans un journal tous les incidents violents, en prenant en note les dates, les menaces et le nom des témoins. Réunissez les photos, les bijoux et les objets ayant une connotation sentimentale, comme des jouets pour rassurer votre enfant. Arrangez-vous avec quelqu'un pour qu'il prenne soin temporairement de vos animaux de compagnie jusqu'à ce que vous ayez trouvé un nouveau domicile. Un refuge peut vous aider. Rappelez-vous d'effacer le dernier numéro composé pour éviter que votre agresseur n'utilise la fonction de recomposition. Effacez l'historique de votre ordinateur. Au moment de partir, demandez à la police de vous escorter ou demandez à un ami, un voisin ou un membre de la famille d'être présent. Ne dites pas à votre partenaire que vous partez. Quittez rapidement votre domicile. Prévoyez une solution de rechange si votre partenaire découvre où vous allez. Après être parti, vous trouverez ci-dessous des mesures que vous pouvez prendre après que votre partenaire ou vous-même avez mis fin à la relation. Si vous conservez la maison, changez les serrures et obtenez un numéro de téléphone et un identifiant anonyme et bloquez votre numéro lorsque vous faites des appels. Changez le mot de passe de votre ordinateur et tout autre mot de passe. Lien vers la sécurité informatique. Étudiez la possibilité d'obtenir une injonction ou de conclure une ordonnance de bonne conduite qui interdit à votre partenaire d'approcher votre enfant ou vous-même. Ayez-le sur vous en tout temps. Donnez à la police une copie de toutes les injonctions que vous avez. Changez tous les fournisseurs de services que vous partagez avec votre ancien partenaire. Ayez toujours avec vous une photo de votre agresseur et de votre enfant. Prenez de plus amples précautions au travail, à la maison et dans la rue. Songez à parler de la situation à votre superviseur. Réfléchissez aux endroits et aux habitudes que votre ancien partenaire connaît et essayez de les changer. Par exemple, rendez-vous dans une autre épicerie. Si vous ne vous sentez pas en sécurité en marchant seul, demandez à un voisin, à un ami ou à un membre de la famille de vous accompagner. Ne retournez pas dans votre domicile à moins d'être accompagné par la police. Ne confrontez jamais votre agresseur. Vous écoutez? Comment assurer votre sécurité si vous êtes victime de violence? Un texte de la rédaction paru sur le site web Femmes et égalité des genres Canada. 3. Parlez à votre enfant. En avance, apprenez à votre enfant que la violence n'est jamais acceptable, même si elle est infligée par quelqu'un qu'ils aiment. Dites-lui que la violence n'est pas de sa faute ni de la vôtre. Ni vous ni lui ne l'avez causée. Apprenez-lui qu'il est important de se protéger s'il subit des mauvais traitements. Indiquez à votre enfant comment obtenir de l'aide et faites-lui comprendre de ne pas s'interposer entre vous et votre conjoint lors d'un épisode de violence. Créez un plan pour quitter votre domicile de façon sécuritaire et pratiquez-le avec votre enfant. Ensemble, choisissez un endroit sécuritaire dans la maison où il pourra se cacher en cas d'épisode violent. Idéalement, dans une pièce avec une porte verrouillable et un téléphone que l'agresseur ne peut pas voir. Entendez-vous sur un mot-clé signifiant qu'il doit appeler à l'aide. Lors d'une urgence, apprenez à l'enfant comment appeler la police et restez en ligne jusqu'à ce que la police arrive. Apprenez-lui à dire son nom et son adresse et à dire ce qui se passe. Ne vous rendez pas à l'endroit où se trouvent vos enfants, votre partenaire pourrait les blesser. Choisissez un endroit sécuritaire où vous pourrez facilement vous retrouver. 4. Réunissez vos biens importants. Documents gouvernementaux, originaux ou copies. Certificat de naissance, carte d'assurance sociale, permis de conduire, carte d'assurance maladie, passeport, injonction de la cour, papier d'immigration ou carte de traité. Papier financier, hypothèque ou bail, renseignements sur les prêts ou les actifs, argent, y compris des cartes de crédit, des cartes de débit et des chèques. Affaires personnelles, numéros de téléphones importants, amis, services, refuge. Téléphone, clés, médicaments ou une liste si vous n'avez pas le temps de réunir ces articles. Autres articles, comme des articles de toilette, des jouets, des photos ou des objets ayant une valeur sentimentale. Si vous ne pouvez pas conserver ces objets dans votre maison de peur que votre partenaire les trouve, pensez à faire une copie et à les donner à quelqu'un en qui vous avez confiance. Le refuge pour femmes de votre région les conservera également. Si vous avez des enfants, assurez-vous que leur école ou garderie est au courant de la situation et a des copies des documents pertinents. 5. Soyez prudent avec votre ordinateur. Tout ce que vous écrivez sur un ordinateur sera conservé dans l'historique et vous ne pourrez pas contrôler qui a accès à ces renseignements. Un agresseur peut surveiller vos activités en ligne et votre historique. Utilisez un ordinateur au travail, chez un ami ou à la bibliothèque. Déconnectez-vous de vos profils et effacez votre historique. Ne partagez jamais vos mots de passe. Les médias sociaux, Facebook, Twitter, etc., peuvent être particulièrement dangereux. N'utilisez pas votre nom et ne publiez pas d'informations personnelles. Assurez-vous que vos paramètres de protection de la vie privée sont à jour. Songez à fermer vos comptes. Comment effacer votre historique? Votre ordinateur contient des renseignements essentiels qui pourraient vous mettre en danger. Voici comment utiliser votre ordinateur de façon anonyme. Internet Explorer. Dans le menu Outils, cliquez sur Options Internet. Dans l'onglet Général, au champ Fichier temporaire, cliquez sur Supprimer. Dans le champ Historique, cliquez sur Supprimer, puis sur OK. Firefox. Dans le menu Modifier, cliquez sur Préférences. À l'onglet Vie privée, sélectionnez Historique et cliquez sur Effacer votre historique. Cliquez ensuite sur Cache et effacer les caches. Safari. Dans le menu principal, cliquez sur « Effacer les caches » et sur « Effacer ». Faites dérouler l'historique et cliquez sur « Effacer l'historique », puis sur « Effacer ». Chrome. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône, cliquez sur « Outils » et sur « Effacer les données de navigation ». Dans la boîte qui apparaîtra, cochez les cases des types de renseignements que vous souhaitez effacer. Historique, cookies, cache. Utilisez le menu déroulant du haut pour choisir la quantité de données à supprimer. Choisissez « Tous » pour effacer toutes les données, puis cliquez sur « Effacer les données de navigation ». C'était « Comment assurer votre sécurité si vous êtes victime de violence ?» Un texte de la rédaction paru sur le site web Femmes et égalité des genres, Canada.
De Carthage au Japon, des découvertes étonnantes. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 août 2025 dans la presse. Les Phéniciens de Carthage, un mystère du Néandertal. Les bacilles des conquistadors, un détail de la tapisserie de Bayeux. Les trouvailles des archéologues ont le don de nous surprendre. Voici quelques découvertes récentes qui révèlent des aspects insoupçonnés de la vie de nos ancêtres. La lèpre avant les conquistadors. Les conquistadors n'ont pas amené la lèpre dans le Nouveau Monde comme on le croyait, selon une nouvelle étude internationale. En mai, dans la revue Science, un aéropage de sommité de la biologie et de l'anthropologie explique que l'une des deux bactéries responsables de la lèpre, M. lepromatosis, existait bien avant l'arrivée des Espagnols en Amérique centrale. Elle y cause d'ailleurs toujours la lèpre, beaucoup plus fréquemment que M. lepré, l'autre bactérie qui cause la maladie, celle qui est arrivée dans le Nouveau Monde avec les conquistadors. M. lepré est arrivé en Europe il y a 2000 à 2500 ans, en provenance de l'Inde, amené par des soldats d'Alexandre le Grand ou alors de l'Afrique. Peu de Phéniciens à Carthage. Les Phéniciens ont fondé la cité de Carthage située en Tunisie, mais ne l'ont pas colonisée selon des chercheurs européens, israéliens et américains. Entre 1000 et 500 avant Jésus-Christ, à partir du Liban actuel, les Phéniciens ont fondé des dizaines de colonies puniques un peu partout en Méditerranée. La plus connue, Carthage, a elle-même mené à la fondation d'autres colonies dans l'ouest de cette mer. Dans la revue Nature, fin avril, on explique que 210 dépouilles retrouvées dans des colonies puniques avaient très peu de sang phénicien. Ce peuple de marchands restait donc en retrait des comptoirs commerciaux qu'il fondait, se limitant à transmettre sa culture commerciale. Manger des asticots. Des chercheurs américains ont publié en juillet dans Science Advances les résultats d'une étude expliquant pourquoi les Néandertaliens avaient autant d'azote dans leur corps que les hypercarnivores. Comme les lions et les loups, qui tirent cet azote de leur consommation de grands mammifères. C'était un mystère, puisqu'aucun humain moderne ne peut supporter une diète uniquement carnivore. En analysant les larves de trois familles de mouches, les anthropologues du Michigan et de l'Indiana ont démontré qu'elles étaient beaucoup plus riches en azote que la viande. Cela signifie que les Néandertaliens se nourrissaient de larves grandissant dans la viande putréfiée, comme le faisaient certaines cultures autochtones, notamment les Inuits. Une villa sur une tapisserie. La tapisserie de Bayeux se passe d'introduction. Cette œuvre du Moyen Âge, qui décrit les deux années précédant l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066, comporte 37 bâtiments sur 70 mètres de longueur. L'un d'entre eux est la résidence du dernier roi anglo-saxon, Harold, selon des archéologues de l'Université de Newcastle en Grande-Bretagne. En janvier, dans l'Antiquaries Journal, ils décrivent les similitudes entre l'un des bâtiments de la tapisserie et un manoir du 11e siècle mis au jour en 2006 à Bosham, près de Portsmouth. Or, selon la tapisserie, le roi Harold se serait justement retrouvé deux fois à Bosham. Le roi Harold est mort à la bataille d'Hastings aux mains de Guillaume le Normand. Des nouvelles de Midas. Depuis les années 1950, des archéologues de l'Université de Pennsylvanie cherchent patiemment la tombe du légendaire roi Midas dans les ruines de Gordion, au centre de la Turquie actuelle. En juin, ils ont annoncé la découverte d'une tombe de la famille de Midas, ce roi du 8e siècle avant Jésus-Christ qui avait la réputation de changer ce qu'il touchait en or. Par voie de communiqué, les archéologues américains et leurs homologues turcs ont décrit cette tombe, la découverte la plus prometteuse pour les aider à trouver celle de Midas depuis la mise au jour, en 1957, d'une autre sépulture qui s'est révélée être celle du père de Midas, Gordias. Poissons et millet au Japon. Il y a 3000 ans, la culture du riz et du millet a migré de la Corée vers le Japon, sonnant le glas du mode de vie des chasseurs-cueilleurs Jomon, les ancêtres des autochtones actuels du Japon, les Ainus. Mais l'établissement de la culture japonaise agricole Yayoi, dont descendent les Japonais modernes, n'a pas simplement reproduit l'exemple coréen. Le millet a été cultivé, mais peu inclus dans la cuisine Yayoi, qu'il a remplacé par le poisson, suivant l'exemple Jomon. En d'autres mots, l'importance du poisson dans la cuisine nippone est un legs des Ainus, ont conclu en juillet des archéologues britanniques, coréens et japonais dans la revue PNAS. C'était de Carthage au Japon, des découvertes étonnantes, un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 août 2025 dans La Presse.
Le Frappru dénonce des gouvernements déconnectés de la réalité des locataires. Un texte de Marik Glorieux-Strickman paru le 3 juillet 2025 dans Le Devoir. Le Front d'action populaire en réaménagement urbain, Frappru, a dressé son traditionnel bilan post-1er juillet, dénonçant une crise du logement dramatique et des mesures gouvernementales insuffisantes. Le nombre de ménages accompagnés activement par la Société d'habitation du Québec, SHQ, atteignait, le 2 juillet 2025, 1899, une augmentation de 12,5% comparativement à la même date en 2024. La SHQ a reçu plus de 300 demandes d'accompagnement en un nombre qui risque d'augmenter jusqu'à la mi-juillet 2025, selon le Frappru. On va voir le nombre de ménages locataires qui sont sans logis, qui sont sans bail, qui sont dans une situation d'hébergement temporaire augmentée, et il ne faut pas normaliser ces situations, a déclaré Véronique Laflamme, porte-parole de l'organisme. Elle dénonce les solutions néolibérales adoptées par le gouvernement provincial qui ont mené à la construction de nouveaux logements privés inabordables plutôt que de logements sociaux. Les gouvernements en place sont déconnectés de la réalité des locataires, a affirmé Mme Laflamme, ajoutant que les membres du cabinet Legault ne sont pas pognés dans un logement trop petit pour leurs enfants et eux-mêmes. À Montréal, en 2024, le taux d'inoccupation des logements locatifs dont le loyer est de moins de 1 150 $ se trouvait à 1%, alors qu'il s'élevait à 5% pour les logements coûtant plus de 1 675 $ par mois, selon le rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logements. En 2025, du logement réellement abordable au regard de la capacité de payer des locataires, surtout de ceux qui font les frais de la crise actuelle du logement, ça s'appelle du logement social, a déclaré Véronique Laflamme, ajoutant que la Ville de Montréal devrait taxer les logements vides et utiliser l'argent récolté pour construire des logements sociaux. Prioriser les logements abordables. Le FREPRU demande la construction, au Québec, de 10 000 logements sociaux par an pour les 15 prochaines années, ce qui inclurait des habitations à loyer modique, des coopératives d'habitation et des logements gérés par des organismes sans but lucratif. Madame Laflamme interpelle les différents ordres de gouvernement, du fédéral au municipal, soulignant la hausse du budget militaire et les baisses d'impôts au fédéral. C'est bien évident que si le fédéral mettait autant d'argent qu'il est prêt à en réserver pour, par exemple, les dépenses militaires, si on décidait de faire de la crise du logement et de la crise de l'itinérance au Canada et au Québec une réelle priorité, on pourrait facilement construire au Canada 500 000 logements sociaux par année, a insisté la porte-parole. Filet social. Malgré l'augmentation de la disponibilité de services aux locataires, le FREPRU souligne que des régions n'ont toujours pas accès à ces services et qu'il est important de s'assurer qu'un filet social existe partout au Québec. Questionné sur les propos récents de la ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau, qui a récemment déclaré que les personnes qui peinent à se trouver un logement font face à d'autres problèmes socio-économiques, Mme Laflamme a affirmé que ce serait plutôt le stress de perdre son logement qui peut causer d'autres problèmes. Il y a bien des locataires qui, aujourd'hui, n'ont pas de problème, affirme-t-elle, mais sont à un imprévu, une perte d'emploi, un électro qui lâche, une séparation, de se retrouver dans cette situation-là de difficulté. Il n'y a personne qui est à l'abri. C'était « Le FREPRU dénonce des gouvernements déconnectés de la réalité des locataires », un texte de Marie Glorieux-Strickman paru le 3 juillet 2025 dans Le Devoir.